Il est 7h, proche premier journal de la matinée avec vous, Claire Sergent, bonjour.
Bonjour.
Pour la première fois depuis 11 ans, la Banque Centrale Européenne va annoncer un tour de vis monétaire.
Et réunion cruciale aujourd'hui à 14h, double enjeu pour l'institution européenne. Lutter contre l'inflation et éviter que les écarts de taux d'intérêt entre les pays ne se creusent. À Francfort, devant le siège de la BCE, on vous retrouve, Wouter Sulek, bonjour. Quelle sera l'ampleur de la hausse des taux? On attendait 0,25 points de base comme hausse. Et ça pourrait même aller au-delà.
Alors oui, c'est la fin du soutien monétaire. Ça a été acté le mois dernier. Première hausse de taux depuis 2011. Depuis la crise des subprimes, la BCE veut agir progressivement. Alors avec une hausse de 25 points de base, le taux de refinancement passerait à 0,25%. Le taux de dépôt resterait négatif à moins 0,25%. Alors 25 points de base, c'est le plus crédible pour cette première hausse de taux. Mais effectivement, certains analystes avancent une hausse de 50 points de base plus sévère à cause de la baisse de l'euro, à cause de l'inflation. L'inflation qui ne faiblit pas. Alors la BCE ne veut tout de même pas créer de surprise, respecter ce qu'elle a laissé entendre. Ses derniers messages, commencer doucement avec cette première hausse de taux, ce début de cycle, et aviser ensuite en septembre. Pour l'instant, pour la hausse de septembre, eh bien là, les marchés ont anticipé 50 points de base.
Aude, on attend également des précisions sur le fameux mécanisme anti-fragmentation que la Banque Centrale entend mettre en place pour éviter un écartement des spreads de taux au sein de la zone euro.
Oui, objectif, empêcher un écartement trop important des taux de dette entre États fragiles et États les plus forts, les frugaux, pour que la zone euro garde une cohérence et un bon fonctionnement. Les pays ne peuvent pas avoir des conditions de financement trop différentes et injustifiées. Cet outil, appelé mécanisme de protection de la transmission, devrait permettre de racheter des dettes des pays dont le taux d'endettement dont le taux de dette est mis sous pression, avec le réinvestissement des actifs qui arrivent à échéance et qui concernent des pays qui n'ont pas besoin de soutien sur leur taux. Alors cela devrait être assez flexible. Les investisseurs attendent des précisions sur le montant, sur les échéances, sur les pays aussi. Alors évidemment, tout le monde pense à l'Italie qui va être testée. Christine Lagarde va vouloir rassurer sur ce point, mais elle va aussi préciser une chose, c'est que la crise en Italie est une crise politique et ne doit donc pas être résolu par un soutien monétaire.
Merci beaucoup, Wouter Sulek, qu'on retrouvera tout au long de cette matinée. Et on va guetter, bien sûr, la réaction des marchés. Nous sommes en ligne avec Christopher Dembick. Bonjour.
Bonjour.
Je rappelle que vous êtes économiste chez Saxo Bank. On a vu les attentes, mais quel regard vous portez sur la situation?
Alors, il y a eu quand même un peu une phase d'incertitude, parce que vous l'avez mentionné, il y a eu cet article de Reuters qui laissait entendre qu'on pourrait discuter d'une hausse de 50 points de base. Alors bien sûr, en tant qu'économiste, on est un peu décontenancé par cette perspective, puisque d'habitude, les banques centrales donnent des lignes directrices qui sont très claires, en l'occurrence 25 points de base, et ça avait été, je pense, suffisamment rappelé, et encore d'ailleurs par le gouverneur de la Banque Centrale Finlandaise la semaine dernière. Mais il faut être quand même vigilant, puisqu'on a vu que parfois les banques centrales peuvent s'écarter assez rapidement du forward guidance, c'était le cas typiquement de la Banque Centrale Américaine au mois de juin. Ça pourrait être éventuellement le cas pour la BCE, parce que objectivement, si on regarde le niveau de l'inflation, il y a très certainement une discussion tout à fait logique qui pourrait avoir lieu pour être un peu plus agressif. Si bien sûr la BCE est un peu plus agressive, ce serait un signal important envoyé au marché. Je pense qu'on aurait plutôt une réaction assez positive, notamment au niveau de l'euro. Et bien sûr, il faudra voir quelle est la ligne directrice, c'est-à-dire quelles vont être dans les prochains mois l'attitude de la BCE. De mon point de vue, la capacité de la BCE d'augmenter les taux est finalement assez réduite. On a une fenêtre d'opportunité qui est réduite, qui est tout simplement lié au fait qu'on soit dans une situation où l'économie européenne ralentit, alors pour des raisons qu'on connaît tous, notamment les questions d'approvisionnement, etc. Donc ça, c'est aussi un vrai sujet pour aujourd'hui, à savoir, est-ce que la BCE considère qu'elle est en mesure d'augmenter les taux sur le long terme, ou, comme je l'ai laissé entendre, la fenêtre d'opportunité est assez réduite, et peut-être dès 2023, on pourra avoir une pause.
Christopher, dans quelle mesure est-ce que la crise politique qui se dessine en Italie peut presser la BCE à présenter en détail son mécanisme anti-fragmentation?
Alors, il y aura une pression effectivement qui est plutôt de marché, dans le sens où, bien sûr, les attentes des investisseurs ont fortement augmenté. Mais la réalité, c'est que en termes d'utilisation de cet outil, il semble assez clair que l'outil n'a pas vocation à être actionné quand on est face à une crise politique. Et aujourd'hui, la réalité, c'est que le problème italien est d'abord une crise politique. Bien sûr, les coûts d'emprunt ont augmenté. Hein. L'Italie a assez nettement depuis le mois de février, mais on n'est pas non plus dans une zone à risque. Il faut faire la distinction entre une pression de marché et des attentes. Et dans tous les cas, le fait que même si cet outil était opérationnel aujourd'hui, c'est certainement peu probable, il n'aurait pas vocation à être actionné. Le gros débat, en tout cas on le sait, le gros débat entre membres du Conseil des gouverneurs et des experts de la BCE au cours des dernières semaines, c'était de dire quels sont les critères qui vont permettre de définir justement qu'on a un écartement du spread qui n'est pas lié au fond, qui n'est justement pas rationnel et qui ne reflète pas les fondamentaux d'un pays. Et on sait à minima en tout cas qu'une crise politique n'a pas vocation à être un des critères permettant l'utilisation de cette outil anti-fragmentation.
Merci beaucoup Christopher Dembick, directeur chez Saxo Bank. On guettera évidemment ces annonces de la Banque Centrale Européenne. Émission spéciale à suivre sur notre antenne cet après-midi à partir de 14h.
Et l'avenir de l'Italie des plus incertains, on en parlait à l'instant. Trois partis de coalition ont décidé de lâcher Mario Draghi, le président du Conseil, le Mouvement 5 étoiles, mais aussi deux alliés, la Ligue et Forza Italia. Ils n'ont pas voté la confiance au président du Conseil. Derrière cette instabilité politique, c'est la santé économique du pays qui inquiète. Très endetté, le taux à 10 ans italien a grimpé jusqu'à 3,37% hier.
L'actualité entreprise avec une levée de fonds considérable, 600 millions de dollars, elle est signée Content Square.
Oui, le leader de la collecte et de l'analyse de données en ligne double ainsi sa valorisation. Content Square entend accélérer son développement à l'étranger. Thomas Schnell.
La plateforme capable d'analyser le comportement des utilisateurs sur un site poursuit son ascension. Après avoir décroché le record de levée de fonds dans la French Tech l'an dernier, Content Square remporte son sixième tour de table avec un financement composé de 400 millions de dollars en fonds propres et 200 millions de dollars en dette. La licorne française aux 1500 collaborateurs vend des outils logiciels permettant aux propriétaires de sites et d'applications de maximiser leur taux de conversion et donc de faire gonfler leurs recettes. BMW, Rakuten, Sephora, Gucci ou Ikea, notamment les utilisent. Dans un contexte d'explosion des ventes en ligne depuis la pandémie, l'entreprise verrait son chiffre d'affaires doubler chaque année. Depuis la dernière levée de fonds record en mai 2021, la valorisation de Content Square a doublé, atteignant désormais 5,6 milliards de dollars. La levée de fonds menée par la société d'investissement américaine Sixth Street a vu la plupart des investisseurs déjà présents remettre au pot. Parmi eux figurent les fonds français Eurazeo et BPI France ou encore les fonds américains KKR et BlackRock.
Et Jonathan Cherki sera le fondateur de Content Square, sera ce soir l'invité de Thomas Sasportas dans le grand journal de l'écho. Rendez-vous à 18h40 sur BFM Business. Rare moment de consensus hier soir à l'Assemblée dans l'examen du projet de loi de pouvoir d'achat. Les députés ont voté la revalorisation de 4% des retraites et des prestations sociales. Elle sera effective dès le 1er juillet 2022. Feu vert également pour la déconjugalisation de l'allocation adulte handicapé qui sera désormais calculée individuellement et non plus sur les revenus du couple.
Alors que l'idée d'une taxation des super-profits des entreprises semble gagner du terrain à l'Assemblée, la mise au point de Rodolphe Saadé au Sénat.
Oui, le patron de CMA-CGM, auditionné hier par la Commission des affaires économiques, a répondu aux accusations. Le géant du transport est pointé du doigt sur les profits records en cette période de crise et de forte inflation. Pauline Tadevin.
Depuis plusieurs semaines, les critiques se multiplient contre les transporteurs maritimes et les profits qu'ils réalisent en pleine crise. Certes, le groupe va bien, la demande profite à CMA-CGM dont le prix des porte-conteneurs a explosé. Il affiche même un bénéfice record de 17 milliards d'euros pour 2021, mais la période est exceptionnelle et il faut raison garder sur les implications de l'armateur dans l'inflation, d'après son PDG Rodolphe Saadé.
Nous ne transportons ni blé, ni pétrole, ni gaz. Notre impact sur l'inflation est donc très faible. Le coût du transport ne représente que 4% du coût d'un produit en moyenne, selon une étude réalisée par Barclays en janvier dernier.
Devant les sénateurs, Rodolphe Saadé a énuméré ses engagements pour lutter contre les conséquences de l'inflation, comme la réservation de centaines de conteneurs par semaine à tarifs réduits pour les PME exportatrices françaises ou la baisse des tarifs de 10 à 20%, soit environ 500 euros par conteneur. Mais il refuse d'être le seul à porter le chapeau.
Moi, ce que je voudrais, c'est qu'on arrête de regarder CMA CGM et qu'on aille regarder mes concurrents et qu'on leur dise CMA fait beaucoup, qu'est-ce que vous faites? Et on fait énormément de choses aujourd'hui. Je suis le seul à les faire. Je dois continuer à faire plus parce qu'il faut continuer à aider au pouvoir d'achat. Mais je ne peux pas être le seul.
Source de mécontentement aussi pour le patron de CMA-CGM, le risque de voir apparaître une nouvelle taxe sur les super-profits. Il appelle la France à l'aider à se maintenir face à ses concurrents européens.
C'est la fin de ce journal. Merci de l'avoir suivi. Claire, on se retrouve tout à l'heure à 7h30.